Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle.
Et vous renouvellerez la face de
la terre. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation. Le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, Saint Jérôme, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Oh. Donc avant de commencer le cours, une petite annonce pour ceux qui m'écoutent sur Internet. Plusieurs personnes m'avaient demandé si je pouvais accepter des messes. Donc je peux de nouveau accepter à peu près un mois ou deux mois de messe. Donc s'il y a des personnes intéressées, veuillez me contacter pour que je puisse noter ces messes, si vous en avez, sur mon carnet de messe. Alors, au niveau du cours, nous en sommes donc à la page 18 sur le polycopier. C'est le deuxième polycopier, chapitre 6 à 10, page 18. Donc on va terminer aujourd'hui le chapitre 7 et commencer le chapitre 8. Donc c'est la conclusion en quelque sorte du discours de notre Seigneur Jésus-Christ sur la montagne. Voilà ce que dit Saint Matthieu. Donc on en est au milieu de la page 18, chapitre 7, versets 28 et 29. Il arriva que lorsque Jésus achevait ses paroles, les foules étaient dans l'admiration de sa doctrine, car elle les enseignait comme ayant autorité, non pas comme leurs scribes et leurs pharisiens. Les scribes et les pharisiens du temps de notre Seigneur Jésus-Christ devaient parler à peu près comme nos politiciens d'aujourd'hui. C'est-à-dire du baratin, du baratin, du baratin. Alors, c'est intéressant de voir comment Saint Matthieu, donc, suivre les pères pour donner ses commentaires, comment Saint Matthieu achève en quelque sorte, résume d'un seul coup, en quelques mots, tout l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ sur la montagne. Donc d'abord, il va parler des différentes oppositions, des différents obstacles au travail de la grâce dans nos âmes. Donc notre Seigneur Jésus-Christ prêche, il y a des milliers de personnes devant lui, il va prêcher, et il y a des moments où la grâce du bon Dieu passe, parce que la porte est ouverte, et des moments où la porte n'est pas ouverte. C'est là, tout simplement, la parabole des talents. C'est aussi la parabole du semeur. Donc le semeur jette sa graine, notre Seigneur Jésus-Christ jette sa graine, c'est la semence. Et puis il y a une partie de la semence qui tombe sur le chemin. Alors, les gens vont piétiner la semence, ce qui ne va rien donner. Une partie de la semence va tomber sur le côté, mais il n'y a pas assez de terre, donc ça germe et puis ça ne va pas plus loin. Il y a une partie de la semence qui va tomber, nous dit notre Seigneur, dans les épines. Et les épines, c'est le symbole du monde, l'esprit du monde. Et la semence va commencer à pousser, mais pas se développer, pas donner fleurs ni fruits, parce que les épines vont étouffer. Enfin, il y a la semence qui va tomber dans le champ préparé, même encore dans le champ préparé, on voit très bien qu'il y a des différences en fonction de la façon dont les gens reçoivent la grâce du bon Dieu. Il y en a qui donnent du 30%, d'autres du 60% et d'autres du 100%. Et donc là, Saint Matthieu, en fait, et les pères de l'Église qui commentent vont expliquer les différents obstacles à ce travail de la grâce. Notre Seigneur Jésus-Christ, certes, une grâce qui est toute puissante en tant que telle, mais c'est ça, c'est un des plus grands mystères de la foi catholique. Comment notre Seigneur Jésus-Christ, qui peut avoir une grâce toute puissante, peut-il respecter en même temps la liberté de l'homme? Il ne faut pas trop s'enfoncer là-dedans, parce que là on peut se décourager complètement. C'est vrai que la grâce du bon Dieu est toute puissante, mais cette grâce, bien qu'elle soit toute puissante, respecte le libre arbitre de l'homme. Comment? C'est ça le mystère. Alors, il y a des obstacles, et ça, les pères vont en parler à plusieurs reprises. Le premier obstacle, donc, c'est en bas de la page 18 sur le polycopier, il parle de l'orgueil. L'orgueil a toujours été le premier obstacle au travail de la grâce. Voilà ce que disent les pères. Qu'un homme se mette en colère contre son frère, qui lui dise raca ou qui le traite de fou, c'est l'effet d'un grand orgueil, contre lequel il n'y a qu'un seul remède, implorer de Dieu le pardon avec un esprit suppliant qui n'ait aucune enflure, aucun sentiment d'ostentation. Et donc, contre cet orgueil, qu'est-ce que propose notre Seigneur Jésus-Christ? Encore une fois, les pères vont reprendre les béatitudes. Contre cet esprit d'orgueil, c'est l'humilité. Donc, bienheureux les pauvres d'esprit, parce que les royaumes de Dieu leur appartiennent. Les pauvres en esprit sont tout simplement les gens humbles. Il faut bien comprendre le terme pauvre en esprit. Pauvre en esprit, ça ne veut pas dire les gens qui ont l'esprit de pauvreté, c'est pas ça, c'est qui ont l'esprit de simplicité. Pauvreté d'esprit, c'est l'esprit de simplicité. Et l'esprit de simplicité, c'est tout simplement l'esprit d'humilité. Un orgueilleux peut être très intelligent, avoir des possibilités intellectuelles énormes, des facultés intellectuelles énormes, mais s'il a l'orgueil, empêche tout simplement le grain de rentrer, la semence de rentrer et tomber dans le champ. Et le bon Dieu peut prêcher à l'extérieur, mais rien qui passe. Et on voit très bien dans la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ, à partir surtout de ce sermon sur la montagne, que notre Seigneur Jésus-Christ prêche. Il invite tous ceux qui veulent venir écouter. Mais dans la pratique, il n'y a que les pauvres d'esprit qui justement comprennent ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ. Et à chaque fois que notre Seigneur Jésus-Christ prêche, au contraire, les pharisiens, les scribes, qu'est-ce qu'ils font? Ils empêchent. La parole de notre Seigneur Jésus-Christ à tel point que même si notre Seigneur Jésus-Christ fait des miracles extraordinaires, eh bien la grâce du bon Dieu ne peut pas pénétrer, et malgré tous ces miracles, ils ne se convertissent pas. On voit aussi dans certains cas, aussi dans les martyrs des premiers siècles, les martyrs qui font des miracles extraordinaires, et puis les gouverneurs romains ne se convertissent pas. Ils continuent de martyriser ces premiers chrétiens, malgré parfois des miracles directement dans la famille du gouverneur. Parfois, le gouverneur va devenir complètement paralysé parce qu'il donne un ordre pour martyriser un peu plus le martyr en question. Et puis, il prie immédiatement en demandant au martyr d'intercéder pour qu'il ne soit plus paralysé. Le martyr intercède, sauve la personne, le gouverneur de la paralysie. Et puis, dès qu'il est de nouveau capable de parler, il va ordonner la tuerie, le massacre des chrétiens. Vous voyez ? Donc, c'est le premier obstacle. Le premier obstacle, c'est l'orgueil. Ça a toujours été l'orgueil. Il faut aussi se rappeler ce que disent la plupart des pères. La meilleure façon de lutter contre l'orgueil, c'est de pratiquer la vertu opposée. La vertu opposée, c'est l'humilité. On retrouve aussi certains textes des pères qui expliquent qu'un des meilleurs moyens de lutter contre l'orgueil, c'est de pratiquer justement les trois grandes pénitences, à savoir le jeûne, l'aumône et la prière. Parce que l'orgueil ouvre la porte aux trois concupiscences. Concupiscence de la chair, concupiscence des yeux et concupiscence de l'orgueil. Donc contre la concupiscence de la chair, c'est le jeûne. Contre la concupiscence des yeux, c'est l'aumône. Et contre la concupiscence de l'orgueil, c'est la prière. Donc la meilleure façon de lutter contre cet orgueil, contre lequel il n'y a aucun remède, c'est d'implorer de Dieu, disent les pères, le pardon avec un esprit suppliant. Et ça, c'est quoi? C'est la prière. Donc l'orgueil entraîne l'humilité, et l'humilité, l'orgueil, pour lutter contre l'orgueil, pardon, il faut l'humilité, et cette humilité va ouvrir la porte à la vertu de prière, à la vertu de religion. Deuxième obstacle qui empêche le travail de la grâce dans les âmes, ce que Monseigneur appelait, Monseigneur Lefebvre appelait ça le zèle amer. Il nous a souvent parlé du zèle amer. Ici, les pères parlent de l'esprit de chicane. Voilà le texte. On se montre d'accord avec son adversaire, c'est-à-dire qu'on rend à la parole de Dieu le respect qui lui est dû, en s'approchant pour ouvrir le testament du Père Céleste, non pas avec amertume et le désir de chicane, mais avec la douceur qu'inspire la piété. Et donc, deuxième obstacle, la chicane, l'esprit de chicane, c'est l'esprit de contradiction. Et systématiquement essayer de diminuer la valeur de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. L'esprit de chicane, c'est un esprit de zèle amer. Monseigneur Lefebvre nous a souvent fait des conférences avec raison sur le zèle amer, parce qu'il est parfois un petit peu au séminaire, et des gens qui veulent toujours être plus royalistes que le roi, je dirais. Ils ont peut-être une très bonne doctrine, ils ont peut-être une grande intelligence, mais il n'y a pas l'humilité. Et s'il n'y a pas l'humilité, alors on tombe d'une part dans l'orgueil. La conséquence de l'orgueil, ce sera cet esprit de chicane. Ici, ils utilisent deux mots, les pères de l'Église utilisent deux mots, chicane et amertume. Amertume, c'est la personne qui essaye qui est jalouse, si vous voulez, de voir le travail de la grâce dans l'âme du voisin, qui va essayer d'empêcher le voisin de recevoir cette grâce. C'est terrible comme péché. C'est refermer, empêcher le voisin d'ouvrir son cœur en ayant cet esprit d'amertume. C'est ce qu'on appelle un esprit de rancune aussi, un esprit de rancœur. Je crois que les deux mots en français. Et cet esprit de rancune et de rancœur est un... on finit par en arriver à un péché contre le Saint-Esprit, quoi. L'esprit de rancune et de rancœur amène une espèce de haine de la vérité connue comme telle, et une espèce de jalousie des grâces du prochain. Ça, ce sont des péchés contre le Saint-Esprit. Donc, pour lutter contre l'orgueil, il faut l'humilité. L'humilité s'obtient par la prière. Ici, pour lutter contre l'esprit d'amertume, l'esprit de chicane, la rancune, la rancœur, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la douceur qui entraîne la piété. D'où la béatitude, bienheureux ceux qui sont doux, parce qu'ils posséderont la terre. Oui, on voit très bien, donc, qu'il n'y a pas de piété. Piété, c'est la base de la vertu de religion. Il n'y a pas de piété sans esprit de douceur. L'esprit de douceur, c'est l'esprit de mansuétude. L'esprit de bénévolence de notre Seigneur Jésus-Christ. Vouloir le bien d'autrui. Troisième obstacle, après l'orgueil, après l'amertume et le désir de chicane, l'attrait des voluptés sensuelles, donc la concupiscence de la chair. L'attrait des voluptés sensuelles, que celui qui les sent se révolter contre la droite volonté s'écrie « Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de la mort de ce corps ?» Et que par ses larmes, il implore le secours de Dieu, son consolateur. Donc, les pères disent que la concupiscence de la chair va être vaincue par le don des larmes. Pourquoi? Parce que le don des larmes, ça inclut une contrition parfaite. On ne parle pas des larmes de crocodile, hein. On parle des vraies larmes. Des vraies larmes et qui entraînent une contrition parfaite. Et la contrition parfaite, c'est-à-dire le regret de ses péchés par amour du bon Dieu, non plus par peur de l'enfer, la contrition parfaite, n'oubliez pas, entraîne la destruction de tous les péchés. Et non seulement la destruction de tous les péchés, un acte de contrition parfaite entraîne également... avec la destruction de tous les péchés, mortels et véniels, la destruction des peines temporelles dues au péché. C'est pour ça que l'acte de contrition parfaite, par définition, c'est un acte de charité parfaite. C'est l'acte de charité parfaite, par définition, le plus haut degré de l'acte de charité parfaite, c'est le martyr. Et c'est pour ça que l'Église enseigne que quand un homme donne sa vie pour notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, non seulement tous ses péchés sont pardonnés, mais toutes les peines temporelles des péchés déjà pardonnés sont enlevées, c'est-à-dire les peines du purgatoire. Et l'Église catholique enseigne qu'un homme, une personne qui donne sa vie par amour du bon Dieu, qui met en martyr, va droit au ciel. Qui passe directement dans l'estomac du lion au paradis. Donc, ce don des pleurs et ce don des larmes, en fait, c'est aussi une conséquence de la vertu d'humilité. Celui qui a le cœur sec, c'est celui qui a le cœur orgueilleux. Quand il y a l'orgueil, il y a le cœur sec. Et s'il y a le cœur sec, qu'est-ce que ça veut dire un cœur sec? Il y a un cœur incapable de pleurer. C'est terrible des gens qui ne savent pas pleurer. Il y a parfois des gens comme ça, on en rencontre de plus en plus dans le monde moderne, qui sont capables d'assister à des pauvretés invraisemblables. Leur cœur n'est pas mu par la compassion, parce qu'ils ont le cœur sec. Le cœur sec, c'est un cœur orgueilleux, incapable d'avoir ce don des larmes. Alors, donc, il faut demander ce don des larmes qui permet justement d'être consolé par le bon Dieu. C'est la béatitude, bienheureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés. La consolation par excellence, c'est le paradis. Après, quatrième point, donc en bas de la page 18, que peut-on imaginer de plus dur que de triompher d'une habitude vicieuse en retranchant en soi les membres qui sont un obstacle à ce royaume des cieux, et cela sans être brisé par la douleur, de supporter dans l'union conjugale toutes les choses qui n'ont pas le caractère de la fornication, quoi qu'elles soient souverainement pénibles, de dire toujours la vérité et de ne point s'appuyer Ne point l'appuyer sur des serments faits à tout propos, mais sur l'intégrité des mœurs. Donc ça, c'est les mauvaises habitudes qui détruisent la paix intérieure. Encore une fois, ces mauvaises habitudes, là, en fait, il parle des habitudes vicieuses qui sont des conséquences de l'attrait des voluptés sensuelles. Donc c'est une conséquence de la concupiscence de la chair. C'est la même chose, on trouve toujours les mêmes points. N'oubliez pas ce que disent les pères, le meilleur point, si vous voulez, le meilleur moyen de lutter contre la concupiscence de la chair, c'est le jeûne. Ça a toujours été la tradition. Le jeûne, bon, alors là, je voudrais faire une petite remarque à propos du jeûne, j'ai reçu quelques messages parfois sur ce sujet. Au niveau du jeûne, il faut que les fidèles, surtout qui m'écoutent sur Internet, même les autres, fassent un peu attention au jeûne. Donc, il ne faut pas que le jeûne nous empêche de faire notre devoir d'État. Il y a parfois dans la tradition, par exemple, des gens qui veulent ce qu'ils appellent un jeûne sec. Le jeûne sec, c'est ni eau, ni nourriture. Et parfois, ils passent 10 jours et des jours sans boire et manger. Et ça peut être dangereux pour la santé. On peut passer plusieurs jours sans manger, vous n'allez pas mourir. Ça, c'est sûr que non. Surtout si vous avez des réserves abdominales comme moi. Mais par contre, passer des jours et des jours sans boire, ça peut être extrêmement dangereux. Et là, il faut faire attention que les gens qui veulent faire ce genre de jeûne ne le fassent pas sans prendre conseil auprès de leur confesseur, s'ils en ont un. Parce que si vous passez des jours et des jours sans manger, surtout dans les pays très chauds, ou dans des moments très... l'été, où il fait très très chaud, ça peut vous entraîner des problèmes rénaux assez importants, des blocages des reins, etc. Par contre, il n'y a aucun problème au niveau du jeûne alimentaire. Au niveau des aliments, bon, même si vous ne mangez pas pendant une semaine, vous n'allez pas mourir. Si, à condition que vous soyez capable, ça c'est très important, il faut que le jeûne ne nous empêche pas de pratiquer notre devoir d'État et de pratiquer la charité. Alors, par exemple, si vous jeûnez dans votre famille parce que vous voulez, rattraper des péchés passés, très bien, mais si à cause de ce jeûne, vous êtes d'un caractère de cochon avec vos enfants et votre épouse, ça ne va pas. Il vaut mieux manger un peu plus et avoir cette liberté de charité. Maintenant, si vous êtes capable de pratiquer le jeûne et de pratiquer la charité en même temps, très bien. Oui. Mais donc, faire attention. Pour ça, dans les séminaires, dans toutes les maisons religieuses, d'ailleurs, c'était comme ça. Au séminaire, c'était comme ça aussi. Le jeûne était strictement protégé par l'obéissance. C'est-à-dire, quand un séminariste voulait pratiquer le jeûne, eh bien, il fallait qu'il demande l'autorisation à son supérieur, sauf les jeûnes de communauté. Jeûne de communauté, par exemple, le vendredi, tout le vendredi de carême, bon, on jeûnait, bon, en principe, on jeûne pendant le carême, bon, ça c'est autre chose, c'est des jeûnes qui sont donnés par le bon Dieu, demandés par l'Église, demandés par le bon Dieu, mais encore une fois, attention à pas faire de bêtises dans ce domaine-là, rappelez-vous le proverbe, celui qui veut faire l'ange, qui fait l'ange, fait la bête, qui veut faire l'ange, fait la bête, parce qu'on n'est pas encore des anges. Alors, où est-ce qu'on en est là? Donc, les pères de l'Église, on passe à la page 19, en haut de la page 19 sur le polycopier. Donc, celui qui veut triompher des habitudes vicieuses, donc qui sont en général des conséquences de la concupiscence de la chair, vont devoir pratiquer pas simplement le jeûne dont il a été parlé auparavant, mais aussi pratiquer tout simplement la charité. C'est pour ça que les pères ici ont une phrase qui semble un peu bizarre. Supporter dans l'union conjugale toutes les choses qui n'ont pas le caractère de la fornication, quoi qu'elles soient souverainement pénibles. Ça veut dire dans le milieu, dans les familles, si on ne vous demande pas de supporter les choses qui sont péchées, une chose qui est péchée, il faut dire non, mais c'est tout. Mais par contre, savoir pratiquer la charité à longueur de journée avec un époux un peu difficile ou une épouse un peu difficile, ça c'est des choses qui obtiennent beaucoup de grâce du bon Dieu. Toujours dire la vérité, ne pas mentir, pour pratiquer justement l'intégrité des mœurs. Et les pères associent à tous ces efforts la béatitude, bienheureux ceux qui ont faim et soif, parce qu'ils seront rassasiés. Donc, en fait, ce qui est l'obstacle, donc le premier obstacle, c'était l'orgueil, deuxième, l'esprit de chicane, troisième, les voluptés sensuelles, quatrièmement, donc c'est ce point-là, en fait, c'est toutes les injustices qui sont couvertes là. Les injustices, pas simplement les injustices, enfin les injustices surtout par rapport, comme son nom l'indique, les injustices contre la vertu de justice, rendre à chacun ce qui est dû. Bon. Vous pouvez, il y a des gens qui peuvent pratiquer des pénitences invraisemblables pour le bon Dieu, mais ils ne sont pas capables de pratiquer la charité avec les membres de la famille, une épouse difficile, un époux difficile ou un enfant difficile. D'accord ? Parfois aussi des gens qui peuvent pratiquer des pénitences assez impressionnantes, mais qui ne sont pas capables de remplir la justice, par exemple par rapport à leurs employés. Hein ? Moi, j'ai plusieurs cas. J'ai connu, pas donné de nom bien sûr, mais des familles qui ont été complètement ruinées parce que des gens n'ont pas payé leurs dettes, par exemple. Et des gens catholiques, hein, qui se prétendaient catholiques, parfois même catholiques de la tradition, qui ne payent pas leurs dettes. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir aidé parfois de façon assez considérable des gens qui étaient dans le besoin, avec premier remboursement, puis le remboursement ne vient pas. Des années après. Pas l'enseignement, moi j'ai fait confiance, j'ai pas demandé un papier comme quoi je reconnaissais, la personne reconnaissait me devoir de l'argent, puis on prend rien, puis après je suis dépassé dans le pays, et puis c'est fini, terminé. Donc faire attention à ça. Hein. Encore une fois, c'est pas simplement la prière, c'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, c'est celui qui écoute la parole de Dieu, mais qui la met en pratique. Hein. Donc il faut pas oublier que la première des charités, c'est de pratiquer et de remplir la loi du bon Dieu, la loi des 10 commandements de Dieu. Cinquième point, page 19. Qui sera toujours prêt à supporter les outrages de ceux qui sont faibles, à donner à celui qui lui demande, à aimer ses ennemis, à faire du bien à ceux qui le haïssent, à prier pour ceux qui le persécutent, si ce n'est celui qui sera parfaitement miséricordieux. Donc là, quel est l'obstacle dont il est parlé ici? C'est la haine. Donc l'obstacle de la haine, alors ça c'est pas mal aussi pour empêcher la grâce du bon Dieu de travailler dans une âme. La haine, un cœur rempli de haine est un cœur qui se coupe de la grâce du bon Dieu. Hein? Ce sont des péchés malheureusement très fréquents, y compris dans les gens de la tradition. On voit parfois des gens de la tradition qui peut-être ont bien compris au niveau de la messe, etc. Et puis qui ont le cœur plein de haine à l'égard de membres de la famille, à l'égard, pas forcément de la famille directe, et moi je ne parle pas à mon frère parce qu'il y a 20 ans il m'a fait une crasse, et donc je ne parle plus, on ne se parle plus, puis c'est tout. Je ne parle pas à ma sœur, je ne parle pas à ma belle-sœur parce que je ne sais pas trop quoi. Et des gens qui gardent cette espèce de haine, Monseigneur Lefebvre nous en parlait souvent, il nous disait que c'était le péché dominant en Afrique. Il disait le péché dominant en Afrique, c'était le péché de haine. Et ce n'était pas... Les convertis noirs arrivaient, de race noire, arrivaient à remplir les commandes de Dieu. Ils étaient pleins de bonne volonté, avec un grand désir de se sanctifier. Mais Mgr Lefebvre me disait, le plus dur, c'était la haine. Parce que c'était des haines de tradition, en quelque sorte, qui étaient transmises depuis des générations et des générations, d'une famille contre l'autre, d'une tribu contre l'autre tribu. Et c'était des jeunes qui étaient des haines qui étaient multipliées avec le temps. Oui, c'est comme une boule de neige qui commence toute petite au sommet de la montagne, qui finit en avalanche. Et c'est ça. Et Mgr Lefebvre nous expliquait parfois d'arriver à vaincre cette haine, c'est impossible. Les missionnaires n'y arrivaient pas parce que les haines étaient tellement entrées dans les mœurs de certaines tribus. Que à partir du moment où on est de telle tribu, on doit avoir de la haine pour la tribu d'à côté. Et ça, ils n'arrivaient pas à faire sauter ça. Et alors, contre cette haine, c'est le pardon des offenses. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ce n'est pas simplement vrai, ce que je viens de vous dire, ce n'est pas simplement vrai qu'en Afrique, hein, faut pas croire qu'en France, ça n'existe pas non plus. Il y a parfois des haines qui se transmettent, des haines viscérales qui se transmettent pour des... Bon, je ne dis pas, parfois il y a des raisons d'avoir une certaine rancœur. Moi j'ai connu des cas pénibles, très pénibles au niveau surtout des testaments. On est après les morts, les morts des parents par exemple, des frères et sœurs qui se battent littéralement pour les testaments. Le corps des parents n'est pas encore chaud dans la tombe, ils sont déjà en train de se battre pour essayer d'obtenir l'argent des parents. Et j'ai vu des cas de vols très impressionnants de personnes qui s'étaient arrangées pour pratiquement tout faire disparaître au moment de la mort des parents. Et puis les autres frères et sœurs, moi j'ai eu des cas, plusieurs cas dans la tradition, des gens de la tradition qui me disaient, monsieur l'abbé, mon frère m'a à tout prix, c'est un cas important, il avait 4 millions d'euros. Et un des frères qui a prêté compte tout prix. Il n'a rien laissé pour ses frères et sœurs. Et il a acheté un ranch avec ça. Et donc, ses frères et sœurs étaient dans la misère. Ils refusaient de donner quoi que ce soit à ses frères et sœurs, en stricte justice, alors qu'ils se prétendaient catholiques de tradition. Oui. C'est pour ça que faire attention, c'est pas parce que on pratique correctement un commandement, il y en a 10 des commandements. Donc si vous pratiquez un commandement mais que vous manquez à la charité sur d'autres commandements, eh bien, ça va pas du tout. Donc pour vaincre cette haine, c'est le pardon des offenses, c'est la béatitude des miséricordieux. Bienheureux donc les miséricordieux parce qu'ils obtiendront miséricorde. L'esprit de miséricorde, c'est un très beau mot, miséricordieux. C'est une origine latine, donc cor, c'est la miséricordieux, cor, c'est le cœur. Donc, c'est étymologiquement, c'est celui qui a un cœur qui est prompt à s'occuper de ceux qui souffrent, misère, ceux qui sont dans la misère, ceux qui sont dans la difficulté. Donc, il y a trois mots aussi, il y a misère, le miséreux dans le sens français du terme. Cor, c'est le cœur, et Dieu, en fait, là, ça vient de dare, en latin, ça veut dire donner. Donc, celui qui a un cœur prompt à donner à ceux qui sont dans la misère. Et ils obtiendront miséricorde. Autre obstacle, numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est les textes magnifiques des Pères, pour avoir l'œil du cœur pur. Il ne faut point se proposer pour fin de ses bonnes œuvres le désir soit de plaire aux hommes, soit de pouvoir aux nécessités de la vie, ni condamner témérairement les intentions du prochain et dans tout ce qu'on fait pour lui. Il faut agir comme on voudrait qu'il agisse à notre égard. En fait, là derrière, c'est l'égoïsme. L'égoïsme qui est caché. Et d'où la béatitude, bienheureux ceux qui ont le cœur pur. En fait, là, dans ce sens-là, c'est pas simplement la pureté les péchés d'impureté, c'est pas ça forcément. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, ça veut dire en fait bienheureux aussi ceux qui ont l'intention droite. Un cœur pur, c'est ça. Celui qui a l'intention droite, c'est-à-dire qui a pas un esprit de division. On retrouve un petit peu les mêmes mots qu'on a déjà expliqué auparavant, l'esprit de rancune, l'esprit de rancœur, l'esprit de confusion, l'esprit de chicane, l'esprit d'amertume. Eh bien, contre tout ça, l'intention droite. L'intention droite, c'est celui qui a le cœur pur devant Dieu. Enfin, dernier point, il faut encore qu'à l'aide d'un cœur pur, nous trouvions la voie étroite de la sagesse que les séductions des esprits pervers veulent nous dérober. Si on parvient à les éviter, on est sûr d'arriver à la paix que donne la sagesse. C'est donc contre les esprits pervers. Et les esprits pervers, c'est les esprits qui sont des esprits malhonnêtes. C'est la malhonnêteté, si vous voulez. Les béatitudes se recoupent, et donc on voit très bien ici que les obstacles à la béatitude, au travail de la grâce, se recoupent aussi. Et donc c'est la béatitude des pacifiques, bienheureux les pacifiques. Donc, contre cet esprit pervers, c'est l'esprit de sagesse et l'esprit de paix. Celui qui est sage, c'est celui qui est un artisan de paix. Il y a des gens comme ça, c'est magnifique d'ailleurs, dans certains groupes, vous avez des gens qui sont dans un groupe, là où ils sont, il y a toujours la paix. Parce qu'ils ont un don, moi j'ai rencontré des gens comme ça, un don de mettre la paix. Et tout le monde se dispute dans le groupe, telle personne arrive dans le groupe, et tout se calme, les gens arrêtent de s'entretuer, les gens arrêtent de se traiter tous les noms, la charité immédiatement revient. Et il y a l'inverse aussi, qui est malheureusement très fréquent, un groupe est en paix, quelqu'un arrive, paf, au bout de 5 minutes, ça, c'est la pagaille, tout le monde se tire dans les pattes, eh bien non, il faut avoir cet esprit de paix. Donc c'est là, on voit très bien que les pères reprennent toutes les béatitudes, pour résumer en quelque sorte le sermon sur la montagne. Donc on reprend les grands obstacles de la paix dans notre cœur, les grands obstacles à la paix spirituelle dans notre âme. Donc l'orgueil, la rancœur, la concupiscence de la chair, l'injustice, la haine, l'égoïsme et la perversion d'esprit. Et contre ça, eh bien l'humilité, bienheureux les pauvres en esprit, la douceur et la piété, bienheureux ceux qui sont doux. Le don des larmes et la contrition parfaite, bienheureux ceux qui pleurent, L'intégrité des mœurs, ça c'est bienheureux ceux qui ont faim et soif contre l'injustice. Le pardon des offenses, c'est bienheureux les miséricordieux. L'intention droite, bienheureux ceux qui ont le corps pur. Et la sagesse et la paix, bienheureux les pacifiques. On voit comment ces textes magnifiques des pères de l'Église qui montrent bien justement ce que les pères de l'Église étaient capables de tirer d'un texte. On pourrait dire qu'il est difficile de comprendre ces choses, mais c'est que c'est compréhensible. C'est pour ça que le texte dit « Les foules étaient dans l'admiration de sa doctrine ». Parce qu'ils voyaient bien la différence entre le comportement de notre Seigneur Jésus-Christ et le comportement des scribes et des pharisiens. Et c'est pour ça qu'il est dit « Jésus les enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes et leurs pharisiens ». Quelle espèce d'hypocrisie, hein. C'est la parabole du pharisien et du publicain, quoi. Publicain qui sort de l'église, du temple, qui est pardonné, le pharisien qui se vante de tout ce qu'il a fait et qui sort non pardonné. Donc on a terminé là le chapitre numéro 7, donc on commence chapitre numéro 8 de Saint Matthieu, page 20. Alors essayons un petit peu d'analyser un peu les différents versets de ce chapitre 8 de Saint Matthieu. Avec les textes des pères. Donc voilà les quatre premiers versets. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux vint à lui et l'adora en disant « Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me purifier. » Et Jésus, étendant la main, le toucha en disant « Je le veux, soyez purifié. » Et aussitôt, sa lèpre fut guérie. Et Jésus lui dit « Gardez-vous d'en parler à personne, mais allez, montrez-vous au prêtre et offrez le don que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. » C'est aussi l'évangile de dimanche prochain, en fait, où il parle des 10 lépreux. Et Jésus leur dit, allez vous montrer au prêtre. Et lorsqu'ils vont se montrer au prêtre, auprès de l'Ancien Testament, hein, puisque c'est les prêtres de la synagogue, avant le nouveau sacerdoce, notre Seigneur Jésus-Christ, ils sont guéris, il n'y en a qu'un seul qui revient vers notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez. Alors, il y a donc trois choses important dans ce texte. D'abord, il descend de la montagne. Deuxièmement, il étend la main. Troisièmement, il envoie les gens vers le prêtre. En voyant un petit peu, justement, les explications des docteurs de l'Église. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ qui descend de la montagne, c'est l'exemple que notre Seigneur Jésus-Christ donne de descendre pour aider les gens qui ne sont pas capables de monter. Vous voyez ? Il est suivi par la foule qui n'avait pas pu monter avec lui, disent les pères, car celui qui est accablé du fardeau de ses péchés ne peut point gravir les sublimes hauteurs des mystères. Mais ce texte qui est juste en dessous du 4 verset, « Tandis que le Seigneur enseignait sur la montagne, il n'avait avec lui que ses disciples auxquels il avait donné de connaître les secrets de céleste doctrine. » Il va descendre de la montagne justement pour maintenant adapter, expliquer sa doctrine, qui est résumée dans les béatitudes, donc expliquer sa doctrine, pour que ceux qui sont accablés du fardeau de leurs péchés, et qui ne sont pas capables de gravir les sublimes hauteurs des mystères divins, puissent recevoir les grâces du bon Dieu. D'accord ? Et bon, les pères expliquent en disant que le péché donc tire vers le bas et empêche les gens de monter vers notre Seigneur. Vous voyez ? Donc la montagne, c'est le symbole de la perfection. Donc, le bon Dieu est en haut de la montagne parce qu'il est parfait. Et il a des gens qui vont monter en haut de la montagne, ça c'est les apôtres qui ont tout donné. Mais en même temps, toute une série de personnes qui restent en bas parce qu'ils sont incapables de monter vers notre Seigneur Jésus-Christ, encombrés qu'ils sont accablés qu'ils sont par le poids, le fardeau de leur péché. Et qu'est-ce que fait notre Seigneur ? Au lieu de s'asseoir au sommet de la montagne en disant ben, venez à moi, je vous attends, qu'est-ce que fait notre Seigneur ? Il descend de la montagne. Il descend de la montagne pour bien montrer que notre Seigneur a cet esprit de condescendance, en quelque sorte. Dans le mot condescendance, vous avez le mot descendre. Celui qui est condescendant, c'est celui qui est capable de quitter son poste élevé, capable de quitter son sanctuaire, de quitter, si vous voulez, son siège élevé, son trône, pour descendre au niveau des gens qui ont besoin de lui. Et on voit ça très bien chez notre Seigneur Jésus-Christ. On voit ça aussi chez tous les saints, par exemple, prenez l'exemple de Saint Louis, roi de France, bon, Saint-Louis, roi de France, et bien, il allait au chêne de Vincennes, il s'assit au pied du chêne, et là, tous les manants, tous les paysans, les gens qui n'avaient pas de culture, qui n'avaient pas d'études extraordinaires, pouvaient venir. Et Saint-Louis les écoutait, leur prêchait, les guérissait, parce qu'il a fait de nombreux miracles. Et puis, il rendait la justice au chêne de Vincennes. Vous voyez, et ça, on voit très bien, tous les saints étaient comme ça. On voit très bien ça aussi. C'est des saints comme Saint Jean Bosco, Saint Joseph Cottolengo, etc. Tous ces grands saints, justement, qui étaient capables de se mettre au niveau du pécheur pour aider le pécheur jusqu'à lui. Attention, sans, bien sûr, sans se laisser contaminer par le péché. Vous voyez, donc, malheur, encore une fois, à ceux qui ont l'esprit d'orgueil, hein, parce que cet esprit d'orgueil empêche les gens de monter vers eux. Voyez. Et je pense que c'est très très important, pas simplement pour les laïcs, mais surtout encore plus pour les prêtres. Hein, que les prêtres soient capables de descendre au niveau des gens pour que les gens puissent comprendre, si vous voyez, que le prêtre descend vers eux pour les monter vers le sommet de la montagne. Voyez. Et évidemment, puisque ce péché tire vers le bas, pour pouvoir faire monter les gens vers le sommet de la montagne, qu'est-ce qu'il faut? Il faut passer par la confession. Et donc la confession, le grand moyen d'alléger les âmes. Quand une âme se confesse, elle va devenir plus légère, et à ce moment-là, elle va pouvoir monter vers le bon Dieu. Et donc c'est repris par d'autres pères. Je donne ici les textes, il y a des textes splendides. Deuxième paragraphe de la page 20. Lorsque le Seigneur descend et s'abaisse jusqu'à l'infirmité, jusqu'à l'impuissance des autres hommes, et qu'il a pitié de leur imperfection et de leur faiblesse, une grande foule de peuples le suit, les uns par un sentiment de charité, la plupart attirés par sa doctrine, quelques-uns parce qu'il les guérissait, prenait soin d'eux. Il y en a qui suivaient notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils étaient guéris, ou tout simplement parce qu'ils étaient nourris par lui. Ils vont être faim, notre Seigneur Jésus-Christ les nourrit. Donc il nourrit les corps, donc il va multiplier les poissons, multiplier les pains. Alors il y a des petits malins qui vont dire, on va suivre notre Seigneur, comme ça on aura du poisson, du pain, on n'aura plus besoin de travailler. Mais notre Seigneur Jésus-Christ part, si vous voulez, une première étape qui est de prendre soin des corps pour monter à une étape supérieure. L'étape supérieure, c'est quoi? C'est prendre soin des âmes. Donc nourrir les corps avec le poisson et le pain est une première étape pour mener à la vraie nourriture spirituelle, à savoir les sacrements. Voyez. Donc on voit très bien, donc notre Seigneur part de choses sensibles et monte au spirituel. C'est très intéressant de voir que dans l'esprit de Vatican II, l'esprit de l'Église de Vatican II, ils font l'inverse. Et au lieu de monter les gens vers les choses spirituelles, ils abaissent les gens vers les choses temporelles. Et on voit très bien ça, par exemple, quand vous comparez l'esprit missionnaire du 19e siècle et l'esprit missionnaire d'aujourd'hui dans l'église de Vatican II. L'esprit missionnaire du 19e siècle au 18e siècle, c'était quoi? Et on envoie des missionnaires dans les pays impossibles avec 10 000 moustiques au mètre carré, d'accord, des nourritures impossibles, des chaleurs impossibles, des contrées impossibles, des gens impossibles. Pourquoi? Pour élever leurs âmes et amener les âmes vers le bon Dieu, baptiser les âmes. Et actuellement, c'est quoi dans l'esprit de mission? Quand on voit le texte missionnaire de l'Église de Vatican II, c'est ahurissant. On envoie les missionnaires non plus pour élever les âmes vers le bon Dieu, mais pour construire des puits, pour donner à manger aux gens. Bon, très bien, je ne suis pas contre construire les puits et donner à manger aux gens. À condition qu'on fasse comme notre Seigneur, c'est que ce soit un point de départ pour arriver à monter après au niveau spirituel. Et là, on le voit très bien dans le monde moderne, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Et non seulement c'est ça, mais c'est même pire que ça. Maintenant, dans l'église de Vatican II, les prêtres missionnaires, Seigneur Lefebvre vous a expliqué ça, je ne sais pas combien de fois, les prêtres missionnaires qui veulent continuer à travailler à l'ancienne, c'est-à-dire élever les âmes vers le bon Dieu, eh bien, se font rapatrier en Europe, carrément, parce que ils ont encore l'esprit d'avant Vatican II, s'occuper des âmes. Non, mais il n'y a pas idée, ici on s'occupe des corps. Alors, on va nourrir les corps. Vous voyez ? Encore une fois, s'il n'y a pas l'esprit de charité, c'est-à-dire si la nourriture des corps n'aide pas à nourrir les âmes et à monter les âmes vers le bon Dieu, on perd son temps. On voit très bien cet esprit-là, par exemple, qui entraîne des péchés terribles contre la foi. Par exemple, c'est deux, on pourrait dire, missionnaires, d'un certain côté, très connus. Le premier, c'était Sœur Teresa. La deuxième, c'est Sœur Emmanuelle au Caire. Vous voyez, c'était ça, avec les chiffonniers du Caire. Très bien, mais quand vous lisez un peu ce qu'elle écrit, c'est toutes les deux, que ce soit Sœur Teresa ou la Sœur Emmanuelle, refusaient de, de considérer quand l'Église catholique il n'y avait pas de salut. On voyait très bien qu'est-ce qu'elle cherchait à faire, aider les bouddhistes à être de bons bouddhistes, les musulmans à être de bons musulmans, puis c'est tout. Vous voyez? Et ça c'est à mon avis un texte très important, vous voyez. Et donc quand notre Seigneur Jésus-Christ descend la montagne, il descend la montagne pour remonter avec les âmes, d'accord? Donc c'est ce que disent ici les pères, sentiment de charité, car les gens pouvaient venir à notre Seigneur Jésus-Christ pour des motifs directs, pour des motifs divers, c'était pas forcément pour les bonnes raisons. Encore une fois, il y a des gens qui pouvaient suivre notre Seigneur Jésus-Christ que parce que notre Seigneur Jésus-Christ les nourrissait. Mais c'est une première étape. Ils commençaient par être nourris au niveau des corps, et après notre Seigneur Jésus-Christ utilisait cette nourriture corporelle pour parler d'une autre nourriture infiniment plus importante, la nourriture des âmes. Hein? Voilà encore un texte des pierres. Par cette montagne sur laquelle le Seigneur s'assied, il faut entendre le ciel, dont il est écrit « Le ciel est mon trône ». Lorsque le Seigneur est assis sur la montagne, ses disciples seuls s'approchent de lui, seuls les apôtres sont avec lui. Car avant qu'il se fût revêtu de notre nature fragile, Dieu n'était connu que dans la Judée. Mais lorsqu'il descendit des hauteurs de sa divinité pour prendre les faiblesses de notre humanité, les nations le suivirent en foule. C'est magnifique comme texte. Dire quoi ? Notre Seigneur qui descend la montagne, ça représente notre Seigneur Jésus-Christ qui prend notre humanité. C'est ça que ça veut dire. Notre Seigneur Jésus-Christ prend notre humanité et donc il descend des hauteurs du ciel. Et un texte splendide là, des pères de l'Église. Donc c'est le mystère de l'incarnation par laquelle notre Seigneur Jésus-Christ va unir notre humanité avec son humanité. C'est l'explication traditionnelle des pères de l'Église. J'en ai parlé dimanche dernier au sermon. Des pères de l'Église qui interprètent ainsi le bon samaritain. Le bon samaritain, c'est quoi ? C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui prend notre humanité pour charger sur son humanité, représenté par la monture du bon samaritain, pour charger notre humanité qui est chargée de péché. Et donc le bon samaritain prend notre nature humaine, c'est notre Seigneur, il prend notre nature humaine pécheresse, la place sur la monture qui représente l'humanité sans péché, notre Seigneur, pour la conduire au confessionnal, pour la conduire à l'église. Et là c'est le même texte. Vous voyez ? Quand il descend donc des hauteurs de sa divinité, il va prendre les faiblesses de notre humanité et les nations le suivent alors en foule. Vous voyez ? Donc, beaucoup, notre Seigneur Jésus-Christ, on le voit très bien dans l'Évangile, va utiliser son humanité pour nous amener à sa divinité. Parce qu'évidemment, il y a deux natures, notre Seigneur. Il est parfaitement Dieu, parfaitement homme. Vous voyez ? Et donc, on voit, c'est la seule façon d'expliquer certains textes de l'Évangile, qui peuvent être un peu surprenants, où on voit notre Seigneur Jésus-Christ agir comme un homme. Par exemple, quand il est invité aux noces de Cana, il faut dire quand même, bon Dieu, qu'est-ce qu'il va faire un mariage ? Bon, ils vont tous boire trop là-dedans, ils se saouler, ou je ne sais pas quoi, autour de lui, et qu'est-ce qu'il vient faire dans un mariage ? Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il va au mariage, donc il va participer à une action purement matérielle, manger, après un mariage, repas de mariage, mais il a derrière la tête quelque chose de spirituel, et il va changer l'eau en vin pour prouver sa divinité. Et donc c'est exactement le texte qui est là, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ descend la montagne, il descend de sa divinité pour prendre notre humanité, et à ce moment-là, les gens voient l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ et remontent à sa divinité. On voit très bien, par exemple, dans la méditation de la Passion. La méditation de la Passion, c'est la méditation de l'humanité de notre Seigneur, l'humanité souffrante de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y avait des temps, si vous voulez, on voit très bien chez les pères de l'Église, au moment des pères de l'Église, les pères de l'Église avaient parlé à des gens qui étaient beaucoup plus intelligents que nous, on voit très bien. Et avait une intelligence supérieure à la nôtre, bien largement supérieure à la nôtre. On se prend pour des grands savants aujourd'hui, alors qu'on est des minables. Et on le voit très bien, les pères de l'Église, par exemple, les textes des pères de l'Église, étaient capables d'avoir des discrétions extraordinaires sur la Sainte Trinité, sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils attiraient les âmes par la divinité. Actuellement, l'homme moderne est incapable d'être attiré à notre Seigneur Jésus-Christ par la divinité, parce qu'il est devenu tellement bête qu'il faut passer par des choses temporelles. Et donc, la meilleure façon d'attirer l'âme vers la divinité de notre Seigneur, c'est de montrer l'humanité souffrante de notre Seigneur. Bon, donc il y a de montrer l'humanité de notre Seigneur, et ensuite l'humanité souffrante. Donc c'est deux étapes. L'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi ? Mais c'est la naissance, c'est la nativité. Bon, c'est d'abord l'incarnation, le 25 mars qui mène au 25 décembre, naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'enfant Jésus qui naît comme homme, dans le temps donc, pour ça que les rois mages donnent l'or, l'encens, la myrrhe, j'ai déjà expliqué 25 fois, donc l'or au roi, l'encens à Dieu, la myrrhe à l'homme. Mais il ne faut pas s'arrêter simplement à ça. Donc on voit déjà un enfant, personne n'a peur de l'enfant, donc on prend l'enfant Jésus dans nos mains, mais l'enfant Jésus emmailloté de l'ange représente le linceul de la passion, le bois de la crèche sur lequel est déposé le corps emmailloté de notre Seigneur Jésus-Christ comme bébé, représente le bois de la croix. Et donc la deuxième étape, c'est la rédemption. Donc l'incarnation mène à la rédemption. Mais c'est ça qu'il faut éviter, surtout dans le monde moderne, je crois, de parler directement aux gens, si vous voulez, qui nous suivent, enfin qui essaient de se convertir. Il faut, à mon avis, éviter de parler directement de la croix, sinon ils se découragent. Il faut commencer par parler de l'incarnation. Et l'incarnation, si vous voulez, de voir la douceur de notre Seigneur Jésus-Christ, l'humilité extraordinaire d'un Dieu qui se fait homme, alors ça les aide à monter après au deuxième échelon. Le deuxième échelon, c'est la rédemption. D'accord ? Alors, il y a d'autres textes ici, là, on peut parler des heures, tellement c'est beau ces textes. C'est 1, 2, 3, 4e paragraphe. Parmi ceux qui ne purent gravir la montagne, se trouvait le lépreux qui ne pouvait monter. Vous voyez le texte, verset 2. Voici qu'un Jésus descend de la montagne, et voici qu'un lépreux vint à lui. Verset 2, chapitre 8. Donc, le lépreux est incapable de monter sur la montagne. Pourquoi ? Parce que la lèpre temporelle représente la lèpre spirituelle. La lèpre spirituelle, c'est quoi ? C'est le péché. D'accord ? Donc le lépreux ne pouvait monter, accablé sous le poids de ses péchés, car le péché de nos âmes est une véritable lèpre. De même, donc, qui ne défendait plus de manger sans s'être lavé les mains, de même, il nous apprend ici que nous devons redouter surtout la lèpre de l'âme. Alors attention, il y a une faute sur le polycopié. Je l'ai corrigé, ce polycopié du site. Il y a une navigation en trop. Il s'est marqué, il nous apprend ici que nous ne devons redouter la lèpre de l'âme. En fait, il nous apprend ici que nous devons redouter la lèpre de l'âme. D'accord ? C'est-à-dire le péché, que la lèpre du corps n'est en aucune façon un obstacle pour la vertu. Donc il y a eu des saints qui ont été des grands lépreux, qui sont restés lépreux jusqu'au bout. Hein. Donc, cette lèpre, le lépreux s'approche de notre Seigneur Jésus-Christ, demandant la guérison. Je le veux, soyez purifié. Jésus, étendant sa main, le toucha en disant « Je le veux, soyez purifié ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il applique par la main qui représente son humanité, il va appliquer sa fonction surnaturelle. Donc la main le touche, ça c'est l'humanité. Dieu le guérit, c'est la divinité. C'est la formule des rois. Le roi te touche, Dieu te guérit. C'est Dieu qui le touche. Et que les rois de France avaient le pouvoir de... Ils étaient nommés officiellement rois. Eh bien, ils avaient le pouvoir, ce jour-là, s'ils étaient en état de grâce, de guérir les écrouelles. C'est une maladie de peau. Et les gens venaient en masse pour se faire guérir par le roi. Et à la fin de... Déjà, avec Louis XIV, si mes souvenirs sont exacts, il y avait des rois qui refusaient de le faire parce qu'ils n'étaient pas en état de grâce, en fait. Alors, ils ne voulaient pas guérir les écouelles pour ne pas montrer à tout le monde qu'ils ne pouvaient pas guérir les écouelles. Vous voyez ? Je ne sais pas si Louis XIV l'avait fait au moment de son couronnement. D'accord ? De même donc que... De même, si vous voulez, que la lèpre corporelle détruit le corps, la lèpre de l'âme, la lèpre spirituelle détruit l'âme. Et donc le péché est bien plus grave que la lèpre corporelle. Alors Jésus lui dit, gardez-vous d'en parler à personne, mais allez, montrez-vous au prêtre et offrez le don que Moïse a prescrit afin que cela serve de témoignage. Alors, voilà ce que disent les pères, la syntaxe d'Origène. Donc notre Seigneur envoie ce lépreux se présenter au prêtre pour qu'il reconnaisse que ce n'est point par la vertu ordinaire de la loi, mais par l'efficacité de la grâce qu'il a obtenu sa guérison. Donc le prêtre de l'Ancien Testament représente le prêtre du Nouveau Testament. Donc de même que notre Seigneur Jésus-Christ qui vient de guérir un corps demande que cette reconnaissance corporelle, de la purification corporelle soit reconnue par le prêtre de l'ancienne loi. De la même façon, Dieu va guérir les âmes par l'intermédiaire, cette fois-ci, du prêtre spirituel, le prêtre du Nouveau Testament. D'accord ? Alors là, vous avez un autre texte des Pères qui est splendide. Cet homme, donc le lépreux, qui était non seulement lépreux, mais tout couvert de lèpre, est la figure du genre humain. Car tous ont péché et ont besoin de la gloire de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont besoin que le Sauveur étende sur eux la main, donc ça c'est le symbole de l'incarnation, j'ai déjà expliqué, par l'incarnation du Verbe de Dieu uni à la nature humaine, pour les guérir des vanités de leurs anciennes erreurs. Donc il faut commencer par se faire toucher par notre Seigneur, ça veut dire commencer par accepter l'incarnation, la partie humaine, la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, pour pouvoir guérir, pas simplement la lèpre corporelle, la lèpre spirituelle, à savoir le péché. Et ça, c'est la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ qui va amener à la nature divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors attention, on ne peut pas séparer les deux. Donc s'il ne faut pas bien comprendre le mystère de l'incarnation, ce n'est pas une espèce de mélange entre la nature humaine et la nature divine. Notre Seigneur Jésus-Christ est parfaitement homme et parfaitement Dieu. Donc il a deux natures, humaine et divine. Donc cette Jésus qui étend sa main, le touche en disant « Je le veux, soyez purifié » et aussitôt sa lèpre fut guérie. C'est pour montrer justement l'union qu'il y a en lui, l'union parfaite entre la nature humaine et la nature divine, tout en étant séparés. Il y a une seule personne, notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui est à la fois Dieu et homme. Comme homme, il touche la personne malade, comme Dieu, il guérit. Il guérit de la lèpre physique pour montrer qu'il a le pouvoir de guérir la lèpre spirituelle. C'est pour ça que très souvent, quand notre Seigneur Jésus-Christ fait une guérison physique comme ça, à la fin il dit « Allez en paix, que vos péchés soient pardonnés. » Pour bien montrer que cette guérison corporelle qu'il vient de leur fournir représente une guérison spirituelle. D'accord ? Donc Saint Rémy, là il y a un texte de Saint Rémy, celui qui a baptisé justement Clovis. Hein. Le lépreux au sens moral, au sens anthropologique, signifie le pécheur, car le péché rend l'âme impure et la couvre de mille plaies, comme la lèpre. Le pécheur se prosterne aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est confus des péchés qu'il a commis. Cependant, il doit les confesser et demander le remède de la pénitence, à l'exemple du lépreux qui découvre ses plaies du lépreux qui découvre ses plaies et en la guérison. Il y a encore une faute, il faut que je corrige. J'ai pas vu ça. Donc c'est l'exemple du lépreux qui découvre ses plaies, il manque un mot, et en demande la guérison. Il faut que je corrige sur les copier. Le Seigneur étend la main, donc, lorsqu'il accorde le secours de sa divine miséricorde, qui est immédiatement suivi de la rémission des péchés. Le pécheur, toutefois, ne doit être réconcilié à l'Église que par le jugement du prêtre. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ va passer par le prêtre, de même qu'il passe par le prêtre pour officialiser une guérison corporelle, il va passer par le prêtre de l'Ancien Testament, il va passer par le prêtre du Nouveau Testament pour, justement, être l'instrument de sa miséricorde. Le Verbe de Dieu, dernier paragraphe de la page 20. Le Verbe de Dieu, souhaitant montrer son indivisible union avec la nature humaine, fit de nombreux miracles par le ministère de son corps. Donc l'humanité amène à la divinité. Et Saint Bède, le Vénérable, explique « Dieu étend sa main, touche la nature humaine par son incarnation, ramène au temple ceux qui avaient été rejetés du camp du peuple de Dieu, c'est-à-dire les lépreux, pour qu'ils puissent offrir leur corps comme un sacrifice vivant dont il a été dit « Vous êtes un prêtre pour l'éternité » selon l'ordre de Melchisédek. Alors, les pères font remarquer que justement cette union de l'humanité et la divinité de notre Seigneur, donc il montre sa humanité en touchant avec sa main la lèpre, le lépreux, et qui montre sa divinité en guérissant l'âme de ses péchés. Donc c'est aussi un moyen de prévenir toutes les grandes hérésies qui vont arriver sur la double nature de notre Seigneur Jésus-Christ. Les premières hérésies sont pratiquement toutes des hérésies concernant le mystère d'incarnation, l'incarnation de la Sainte Trinité. Alors c'est Arius d'abord, Arius qui niait la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ en disant que notre Seigneur était la première des créatures. Et donc il est créé par Dieu. Ce qui est vrai, notre Seigneur Jésus-Christ, dans son humanité, je dis bien dans son humanité, créé par Dieu, attention, mais Arius disait que le Christ était inférieur à son Père. Et donc ne commandait pas, mais recevait les ordres de son Père. Eh bien, pour aller détruire cette future hérésie d'Arius, ça va arriver 3 siècles après ou 2 siècles après notre Seigneur, 300 ans après notre Seigneur, pratiquement. Eh bien, pour détruire à l'avance l'hérésie d'Arius, qu'est-ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ ? Donc, il montre bien qu'il fait tout par lui-même. Il touche humanité et il guérit l'âme, divinité. Pour bien montrer que dans sa personne, il y a deux natures. Alors, en haut de la page 21, notre Seigneur Jésus-Christ va toucher également le lépreux à cause des manichéens qui prétendaient que le Christ n'avait pas une chair véritable mais seulement une apparence. Donc, c'est ce qu'on appelle les docétistes. Et le manichéisme et les docétistes ont des points communs et donc ne pouvaient être touchés ni être touchés. Les docétistes, c'est ceux qui niaient l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi, alors il y a Arius qui niait la divinité et Docétis il niait l'humanité. Hein. Docétis prétendait que notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas vraiment souffert, qu'il donnait l'impression de souffrir, qu'il ne mangeait pas, qu'il faisait semblant de manger. Enfin, c'est complètement idiot, mais c'est une des conséquences du manichéisme. Le manichéisme, c'est la grande hérésie dans laquelle Saint Augustin est tombé au début, avant d'être saint. Il était manichéen. Hein. Manichéisme, c'est l'hérésie cathare. Hein. Les albigeois. Le catharisme, c'est du manichéisme pur et simple. Il y a l'existence de deux dieux, le dieu du bien et le dieu du mal. Le dieu du bien, c'est le dieu spirituel. Le dieu du mal, c'est le dieu de la partie matérielle. Donc deux dieux, l'esprit contre la chair. L'esprit contre la chair, et donc l'esprit doit écraser la chair. Donc la chair n'a aucune valeur. Vous voyez les conséquences sur plan spirituel pour les manichéens. Les manichéens, jusqu'au bout de leur conviction, en disant, puisque la chair n'est rien, on peut mépriser la chair, faire n'importe quoi avec la chair. Et donc, au niveau du mariage, ils disaient, la fidélité au mariage, ça n'existe pas, le mariage, ce n'est pas nécessaire, puisque c'est la chair, c'est rien du tout, donc on peut faire n'importe quoi avec n'importe qui. Vous voyez ? Alors, troisième exemple donné par les pères, Fautin. Enseigner que le Christ n'était qu'un homme et non Dieu, dont l'attribut est une volonté toute puissante. Alors il dit, je le veux, sois guéri. C'est d'autres, une autre hérésie. Donc qui niait, encore une fois, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le sens moral derrière, donc est résumé là en page 21, deuxième paragraphe, en caractère gras. La lèpre signifie le péché mortel. Surtout celui qui est contagieux comme les résilés d'une façon toute spéciale à cause de son extrême saleté et nature infectieuse. C'est pour ça que notre Seigneur prend comme exemple la lèpre, parce que la lèpre avait cette saleté et cette nature infectieuse qui faisait que c'était extrêmement contagieux. La lèpre au Moyen-Âge même, et la lèpre dans les premiers temps de l'Église, c'était épouvantable sur le plan physique. Quoi. Tel point que les lépreux étaient parqués littéralement comme des bêtes, dans des endroits en dehors des villes, et on les nourrissait par pitié, mais ils n'avaient absolument aucun droit à aucune communication avec les gens qui n'étaient pas lépreux. Ça durait très tard, hein, pratiquement jusqu'au 19e siècle, pratiquement. Hein. Parfois, les parquaient dans des îles. Longtemps, par exemple, l'île d'Hawaï avait été... une île dans laquelle on avait mis les lépreux. J'ai entendu parler de Damien Wester, donc le père Damien. Bon, je crois qu'il était canonisé par l'Église de Vatican II, mais c'est quand même quelqu'un tout à fait canonisable. Hein. Le père, c'est un Belge, Damien, je sais plus comment on appelle son nom de famille, mais un nom flamand, Wester, je crois. Et donc, le père Damien avait demandé à partir chez les lépreux pour pouvoir s'occuper des lépreux parce que personne ne voulait y aller. Et ils avaient tous été parqués, c'était dans une des îles des îles Hawaï. Et j'ai oublié le nom de l'île dans laquelle ils étaient tous parqués. Et ses supérieurs l'ont prévenu, mais attention, si vous partez là-bas, vous ne pouvez plus revenir. Hein, parce que vous serez contaminés et vous ne pourrez pas revenir. Et donc il est allé avec eux, il est devenu lépreux comme eux, littéralement, pour l'a apporté les sacrements, et à tel point que lorsque un bateau est venu pour apporter des provisions, donc ils avaient tellement peur de la blep que les ballots de provisions étaient littéralement jetés à la mer, et les gens de l'île venaient chercher leurs vivres. Et donc il y a le père Damien, donc, qui était sur un petit canot, qui s'approche du gros bateau, parce qu'il savait qu'il y avait un missionnaire sur le bateau, en disant: je veux me confesser, moi je suis tout seul comme prêtre, je veux me confesser. Et le capitaine a interdit à père Damien de monter sur le bateau. Et c'est preuve extraordinaire de la sainteté du père Damien. Donc le capitaine a interdit au père Damien de monter sur le bateau et a interdit au prêtre missionnaire de descendre pour confesser son confrère, en disant: si vous descendez pour le confesser, vous ne remontez pas sur le bateau. Alors le père Damien s'est mis à quelques mètres du gros bateau et a commencé sa confession à haute voix. Confession à haute voix, bon, il a fait en latin en fait. Mais il a fait quand même cette drôle d'humilité. Hein. Il a commencé sa confession à haute voix et le père missionnaire, qui était sur le bateau du haut du bastingage, a donné absolution au père Damien. Et il est mort lépreux. Hein. Alors on va finir chapitre 8, verset 5, il y a encore quelques lignes à expliquer là. Donc la purification de la lèpre, quand notre Seigneur Jésus-Christ dit « Je le veux, soyez purifiés », la purification de la lèpre est donc le symbole du sacrement de pénitence et de la confession sacramentelle par lesquels les péchés sont pardonnés. Donc le lépreux, c'est le troisième paragraphe de la page 21, le lépreux est un type de l'humanité couverte de la lèpre du péché, et à cause de cela, dit saint Ambroise, les évangélistes ne disent point l'endroit où il fut guéri pour nous faire entendre que ce n'est pas un seul homme, mais tous les hommes qui sont guéris en lui. Cet homme qui était plein de lèpre, eh bien l'image de l'humanité déchue. Elle ne pouvait plus s'élever de la montagne à la montagne de Dieu, c'est pourquoi il faut que le Seigneur descende vers elle. Donc notre Seigneur Jésus-Christ qui prend notre humanité, encore toujours la même idée, qui prend notre humanité pour charger sur son humanité, notre humanité défaillante, détruite par le péché en quelque sorte, et pour que la sainteté de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, par son contact avec notre humanité viciée par le péché, guérisse cette humanité viciée. Là, il y a un texte magnifique de saint Thomas. Jésus a plus fait par sa présence invisible que ça par sa présence visible. Deux dispositions sont nécessaires à celui qui reçoit ce sacrement: le désir de l'union à Jésus-Christ qui vient de l'amour et le respect dû au sacrement qui fait partie du don de crainte. La première disposition, donc le désir de l'union en Jésus-Christ, attire à la communion quotidienne. La seconde, c'est-à-dire le don de crainte mal compris, va en éloigner l'âme. Donc si quelqu'un reconnaît que par la communion quotidienne l'amour s'accroît sans que le respect diminue, celui-là devrait communier tous les jours. Que celui au contraire qui constate que le respect diminue sans que l'amour augmente, il faudrait s'abstenir quelquefois pour pouvoir s'en approcher ensuite avec plus de respect et de dévotion. Ça, c'est tout le travail de la direction spirituelle, de déterminer un petit peu est-ce que les gens en général ont besoin de la communion fréquente. Mais il y a parfois des gens qui communient très, très, très fréquemment, mais qui ne font pas les efforts suffisants. Et donc, dans certains cas, le confesseur est obligé de dire: bon, écoutez, vous allez, c'est ce qu'il faisait beaucoup au Moyen-Âge. Il y avait peut-être un peu trop de compréhension de la nécessité d'une sainteté personnelle pour pouvoir communier, et donc ça éloignait aussi un petit peu les gens des sacrements, et donc ça éloignait beaucoup les enfants de la communion. Et vous savez qu'avant Saint-Pie X, pratiquement les enfants communiaient pas avant 12-13 ans, hein, parfois même 14 ans, et c'est Saint-Pie X qui a brisé le tabou, en quelque sorte, en instituant la confession, la communion fréquente et la communion des petits-enfants. Et il y a eu sur le dos des tas de problèmes, parce que les curés ne voulaient pas suivre les principes de Saint-Pie X et refusaient la communion aux enfants. Et Saint-Pie X a dû taper le poing sur la table pour obliger, par l'intermédiaire des nonces, obliger tous les curés de France, entre autres en France, tous les curés de France à accepter les décrets de Saint-Pie X sur la communion fréquente des enfants. Et Saint-Pédis avait dit: il y aura des enfants saints. des enfants qui vont sanctifier justement par la communion. Alors, vous avez des exemples magnifiques dans le livre de Mlle Quenette sur la. J'ai oublié le titre de ce livre, je suis au bout du. Au bout de la langue, là, sur la pureté. Donc, elle a tout un passage sur justement les enfants croisés. Et les saints enfants, la sainteté des enfants qui se sont. L'éducation de la pureté, voilà, chercher le titre. C'est l'éducation de la pureté sur l'importance de la sainteté chez les enfants. Et elle donne des tas d'exemples, entre autres le petit belge Herman Wynne et la petite irlandaise Nelly du Dieu Saint, petite de 3 ans. Incroyable, petite de 3 ans, donc qui était dans un orphelinat, et donc qui avait un grand désir de la communion. Et les sœurs qui s'occupaient d'elle savaient aussi qu'elle avait la tuberculose, donc elle allait très vite mourir. Et le prêtre qui avait compris ça lui a donné la communion à 3 ans. Et les sœurs disaient, quand elle a reçu la communion, pour la première fois, elle est devenue rose comme une toute rose, et puis elle est devenue immobile pour une demi-journée à la chapelle. Voilà, elle est morte très vite après. Bon, donc, la prochaine fois, si Dieu veut, donc, aller plus longtemps. Donc, on continuera. Donc, on est quel jour aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est le 14. Donc, ce sera le 21. Donc, on prendra à partir de. Verset numéro 5. On va terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs.
Dans saint ange gardien, saint Thomas d'Aquin, saint Jérôme,
priez pour
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.